Merci encore pour le privilège d'être des vôtres aujourd'hui et pour les différentes formes de collaboration entre cette Église et l'Institut biblique de Bruxelles, très précieux. Avec l'accord du pasteur, la prédication aujourd'hui portera sur une thématique liée à la lecture faite par plusieurs d'entre vous de ce livre sacré des accords. Si vous n'avez pas encore lu le livre, ce n'est pas dramatique, vous allez pouvoir comprendre la prédication, je l'espère. Mais j'ai apporté d'autres exemplaires, donc gratuits, qui seront mis à disposition au même endroit où vous allez réceptionner votre exemplaire du magazine Le Maillon. Notre passage est dans Philippiens 2, l'épître de Paul aux Philippiens est dans le chapitre 2 de cette épître. Philippiens 2, à partir du verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire, selon son dessein bienveillant. Faites tout sans murmure ni discussion pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. Ce sera mon sujet de gloire au jour de Christ, de n'avoir pas couru ni peiné en vain. Mais même si je sers de libation en plus du sacrifice et de l'offrande de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Prions. Notre Dieu, notre Père, notre passage parle de l'importance de nous attacher à la parole de vie. Combien nous te remercions de ce que cette parole nous a donné la vie en Christ. Et nous te demandons de promouvoir la paix et protéger la paix qui existe au sein de cette Église, ainsi qu'au sein d'autres églises de notre pays. Donne que la vie de cette Église te glorifie de plus en plus. Œuvre en chacun d'entre nous. Nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Frère, je pense que je devrais être franc avec toi. J'étais très déçu par toi durant la pandémie. Tu n'as pas été fidèle. Tu n'as pas été sage. Tu as juste cédé à tout ce que le gouvernement a dit. Pas possible de se réunir en église locale. Tu acceptes, malgré le fait qu'il y a des injonction biblique qui nécessite qu'on se réunisse en Église. Et pour ce qui est des vaccins, tu as juste avalé chaque mot que les autorités ont dit, alors que des chercheurs indépendants à l'époque nous avertissaient concernant les dangers. Et tu vois aujourd'hui que ce sont les vaccinés qui tombent malades. La Bible dit qu'il faut être capable de discerner le temps où nous vivons. Frère, moi aussi, je pense que je devrais être franc avec toi. Tu ne te rends pas compte, en fait. Toi, tu me fais pitié. Tu es juste cinglé. Le gouvernement n'a pas persécuté les chrétiens durant la pandémie. C'était une mesure, cette histoire de confinement, c'était une mesure de protection dans la grâce commune de Dieu. Quant au vaccin, garder les gens en vie est quand même un peu utile. Est-ce que tu n'as jamais réfléchi au fait qu'il y a des algorithmes qui sont nourris par l'historique de tes recherches en ligne et du coup, ton propre parti pris a juste été renforcé, et tu as fini par être parfaitement aveugle. Cette conversation est fictive, mais est-ce qu'elle aurait pu avoir lieu dans nos églises? L'église de Philippe était une église modèle, selon les premiers mots de notre passage. Vous voyez le verset 12. Philippiens 2, 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mais l'unité de cette Église est fragile et même menacée de façon concrète et préoccupante. » La réalité, c'est qu'il y a des tensions en interne dans l'Église de Philippe. Nous ne savons pas précisément ce qui pose problème entre les deux sœurs qui ne s'entendent pas bien. Mentionné au début du chapitre 4, Évodie et Saint-Tiche. Mais il y a une certitude. Leur problème ne porte pas sur une doctrine majeure constitutive de l'Évangile. Si je peux parler selon les termes de ce livre, leur désaccord ne se situe pas au niveau A, au premier rang. Ce n'est pas, par exemple, que Évodie croit à la Trinité et Saint-Tiche, non. On le sait parce que la formule que Paul emploie dans 4:2 permet de comprendre que les deux doivent faire un effort pour se rapprocher. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche. Ni l'une ni l'autre n'est dans l'erreur doctrinale. Elles adhèrent à l'Évangile, nous lisons, ayant combattu pour l'Évangile dans leur nom, à toutes deux et dans le livre de vie. Mais elles sont en froid l'une avec l'autre, au point d'avoir besoin de l'aide d'un médiateur. Et si c'était aujourd'hui, quelles seraient les questions qui créeraient de telles tensions? Est-ce que ça pourrait être la prise de position sur les vaccins ou comment scolariser ses enfants à la maison, dans une école normale, entre guillemets, dans une école chrétienne, différents points de vue? Ou sur le style de musique qu'on devrait privilégier dans l'Église. Ces sujets sont loin de se situer au cœur de l'Évangile. Ils se rangent au niveau C dans l'échelle des convictions. Alors, si ces sujets sont loin de se situer au cœur de l'Évangile, pourquoi en faire un plat? Pourquoi est-ce que je suis en train de parler de sujets comme ça? C'est quoi le problème? Eh bien, les tensions sont quand même un problème, justement dans la perspective de l'Évangile. Lorsqu'on mène le combat sur des questions mineures, Lorsqu'on rompt la communion fraternelle à ces sujets, lorsqu'on n'est plus uni au sein d'une église locale pour une raison illégitime, l'œuvre de l'Évangile est minée. Dans cet épître, l'apôtre Paul a le souci de voir les Philippiens se conduire de façon digne de l'Évangile. Ça, c'est 1.27, texte phare pour toute l'épître, 1.27. Cela veut dire combattre pour la vérité de l'Évangile, et cela veut dire le faire de façon unie. 1.27, seulement conduisez-vous d'une façon digne de l'Évangile du Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. La vérité est importante et, entre autres, ce livre est destiné à nous aider à comprendre ce que sont les composantes de l'Évangile afin que nous puissions défendre l'Évangile. La vérité est importante, l'unité aussi. Écoutez le chapitre 2 et les versets 3 et 4. Philippiens 2, verset 3, « Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Et maintenant, pour ce qui est de notre passage, qui commence en 2.12, notre passage s'inscrit dans le cadre de ces idées. Il y a une exhortation qui s'inscrit dans le cadre de 1.27 et 2.3 et 4. Se conduire de façon digne de l'Évangile, 1.27, et faire passer les autres avant soi, 2.3 et 4. Se retrouve dans notre passage. Conduisez de façon digne de l'Évangile à pour pendant dans notre passage le verset 12. Travaillez à votre salut. Et faire passer les autres avant soi à pour pendant dans notre passage le verset 14. Faites tout sans murmure ni discussion. Et c'est là l'exhortation que nous devons entendre ce matin. Mettez votre salut en action en renonçant aux plaintes et aux disputes. Je ne sais pas si on peut avancer dans le PowerPoint, merci beaucoup. Mettez votre salut en action en renonçant. Ah oui, vous l'avez, mais moi je ne l'ai pas. D'accord. Vous étiez au bon endroit, par la foi. il est vrai que l'expression que nous lisons dans le verset 12 n'est pas sans difficulté. Travailler à votre salut pourrait laisser penser qu'à moins de faire des œuvres, notre salut final n'est pas assuré, que nous risquons d'être condamnés en enfer. Mais cette lettre va être on ne peut plus clair sur le fait que le salut est un cadeau qu'on reçoit. On n'y contribue rien. Selon le chapitre 3, nous sommes sauvés par la foi seule, par le Christ seul, par la grâce seule. Paul a déjà signalé que la foi est un cadeau. Je peux lire 1.29. Cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, la grâce de croire. Mais une fois qu'on a reçu ce cadeau, la grâce de croire, est-ce qu'il y a le risque qu'on perde le cadeau et qu'on finisse quand même par être condamné en enfer? Non, si on s'est tourné vers Dieu pour vivre sous son autorité, si on est en Christ, on sera jugé sur la base de sa vie parfaite. Mais n'y a-t-il pas le danger qu'on n'arrive pas à rester en Christ? Non, Paul a déjà expliqué au chapitre 1er que là où Dieu a commencé une œuvre chez quelqu'un, Dieu continuera à le faire jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça veut dire alors, travailler à votre salut? Ce n'est pas viser à gagner votre salut, mais vous êtes chrétienne, chrétien, sauvé, montrez-le. Faites fructifier cela. Vivez en adéquation avec cela. Mettez votre salut en action. Conduisez-vous de façon digne de l'Évangile. Et c'est ainsi qu'il nous faudrait vivre chacune, chacun d'entre nous croyants individuellement. Mais dans le contexte, ce qui est en cause, c'est comment on vit en communauté. Et ici, dans le concret, mettez votre salut en action veut dire renoncer aux plaintes et aux disputes. Ou comme dans le texte que j'ai sous les yeux, verset 14, « Faites tout sans murmure ni discussion. » Dans le contexte, il faut avoir en tête les tensions au sein de l'Église, les rivalités, les ambitions égoïstes, semble-t-il. Ce qui est troublant dans le cas d'Évodie et de Saint-Tiche, c'est que toute l'Église est concernée. Lorsque ces femmes entendent l'exhortation à régler leurs problèmes, il se trouve que toute l'Église doit l'entendre. La vie de l'Église est affectée par ce désaccord. Toute l'Église est au courant de ce qu'un médiateur est chargé de les aider à trouver un accord. Les discussions ou disputes en question dans le verset 14, on a compris que ce qui est en cause, ce sont des disputes illégitimes qui sèment la discorde au sein de la communauté. Qu'en est-il des murmures ou plaintes? Ça, c'est l'idée de critiquer quelqu'un, de calomnier quelqu'un, de casser du sucre sur son dos. Se plaindre contre qui? Est-ce que les Philippiens courent le risque de miner l'autorité des responsables au sein de l'Église? C'est probable pour deux raisons. D'abord, un peu plus loin dans ce chapitre, dans le verset 29, de 29, Paul doit exhorter les Philippiens à honorer un certain Épaphrodite. Épaphrodite est un messager envoyé par les Philippiens, pas forcément un responsable majeur, mais un modèle de désintéressement et d'auto-abnégation. Mais il semble que les Philippiens n'aient peut-être pas compris qu'il faudrait accorder le respect approprié aux gens comme lui, a fortiori aux anciens et aux diacres. Seconde raison, le langage de ce verset, donc de 14, fait écho, aussi pour 2.15, fait écho à la vie des Israélites dans le désert. Je vais lire Nombre 14, verset 2. Vous pouvez juste écouter. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert ?» Ils murmurèrent contre Moïse et Aaron, oui, contre Dieu en même temps, mais en passant par les responsables. Écoutez Paul dans 1 Corinthiens 10, que vous pouvez juste écouter encore une fois. 1 Corinthiens 10. Ne murmurez pas comme murmurèrent certains d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée. On renonce aux plaintes et aux disputes. Cela n'exclut pas qu'on évoque tel ou tel sujet où on n'est pas d'accord avec tel responsable ou autre personne. Cela va vouloir dire... par exemple, évoquer ce type de sujet, donc ayant baigné la conversation en prière en amont, avec le souci d'encourager les responsables, en étant soucieux de faire preuve du bon ton et dans à trouver le bon cadre. Et encore une fois, ce livre est destiné à aider à ce titre. C'est facile? Eh bien, je nie pas que cela peut être difficile avec quelqu'un qui t'irrite lors de la réunion de prière ou l'étude biblique ou dans le ministère au sein duquel tu sers parmi les ados, groupe de jeunes, équipe nettoyage, rangement, équipe musique, école du dimanche, accueil. Peut-être que nous sommes obligés de côtoyer quelqu'un que nous trouvons peu fiable, donneur de leçons, ou juste pénible. Nous avons peut-être envie de critiquer la personne dans nos conversations par-ci, par-là. Et peut-être que nous savons faire cela sous le couvert d'un discours spirituel. Je peux évoquer un sujet de prière au sujet de X. Je suis vraiment inquiet pour X. Lorsque nous sommes tentés d'aller dans ce type de sens, mettre notre salut en action en renonçant aux plaintes et aux disputes devient difficile. Mais voici ce qui est réjouissant dans notre passage. On est amadoué, on est aiguillonné, on est aspiré, incité, poussé, pressé, boosté par toutes sortes de motivations, à commencer par la croix. Vous avez vu comment notre passage débute. Ainsi donc, cela renvoie à ce qui précède. Lisons les versets 6 à 8. Lui, Jésus-Christ, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. La mort est soulignée là pour nous. Voici Jésus-Christ, le Dieu humble, cloué sur la croix, le nec plus ultra de l'abaissement. La mort, cette forme de mort sur la croix, la forme la plus déshonorante qui soit. Difficile pour nous de ne pas penser aux bénéfices de cette mort comme on vient de le faire en prenant la scène. Le pardon de nos fautes. Lorsqu'il est mort sur la croix, Jésus a reçu la punition que nos fautes entraînent à notre place pour que nous puissions être jugés innocents, pour que nous puissions être acquittés. Quelle grâce! Mais ce qui prime ici, c'est l'attitude chez Jésus en allant vers sa mort. Sa mentalité que nous devrions imiter. Verset 5. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Là, Paul est en train d'exhorter les Philippiens à aligner leur pensée sur celle du Christ. Et il utilise le même verbe qu'en 4:2, lorsqu'il exhorte les deux femmes, Évodie et Saint-Tiche, à aligner leurs pensées entre elles. Comment renoncer aux plaintes et aux disputes? En marchant sur les traces du Christ dans son abaissement, en adoptant la même attitude que lui à l'approche de la mort. Il n'a pas insisté sur ses droits, il s'est humilié. Il a fait passer les autres avant lui, cela lui a coûté cher. Mais il n'est pas resté mort. Lisons les versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. On met en action son salut, on vit de manière digne de l'évangile du Christ, on renonce aux plaintes et aux disputes parce que Jésus-Christ possède le nom qui est au-dessus de tout nom. Et un jour, sa seigneurie sera reconnue par tout un chacun. Mais il est déjà notre Seigneur. Notre langue confesse déjà sa suprématie. Nous plions déjà le genou. Nous nous soumettons à la volonté de notre Seigneur. Motivation suivante, qui va plus loin encore. Nous avons peur de pécher. Voyez le verset 12. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ça, c'est la crainte de déplaire à Dieu. Le tremblement en sa présence. Dans le verset précédent, le verset 11, pourquoi est-ce que toute langue devra confesser que Jésus-Christ est Seigneur? Regardez bien. À la gloire de Dieu le Père. Au début de cet épître, en 11, Paul prie pour que Dieu soit glorifié. À la fin de cet épître, 4, 20, Paul prie pour que Dieu soit glorifié. Le but fondamental de notre vie à chacune, chacun d'entre nous qui sommes en Christ, c'est de maximiser la gloire qui revient à Dieu. Et donc, nous avons peur de miner la réputation de Dieu. Nous mettons notre salut en action avec crainte et tremblement, y compris, fin du verset 12, y compris lorsque les uns et les autres ne sont pas en train de nous regarder. Mais, fait remarquable, lorsque nous mettons notre salut en action, c'est parce que Dieu nous pousse à cela, à la fois pour ce qui est de notre désir de lui plaire et pour ce qui est des actions qui lui plaisent. Vous voyez ça dans le verset 13. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Et certains peuvent s'interroger à ce sujet. Si c'est Dieu qui œuvre en nous, nous ne sommes peut-être pas responsables de nos actes. Si nous péchons, c'est la faute de Dieu. Mais nous ne pouvons pas lire le verset 13 sans aussi lire le verset 12. Nous sommes responsables de nos actes et dépendants à l'égard de Dieu pour qu'il nous donne les bonnes actions. Et parce que ça, c'est difficile à comprendre, certains peuvent penser qu'il est question d'une sorte de coopération 50-50. Les bonnes actions dont nous faisons preuve, c'est en partie grâce à Dieu, en partie grâce à nous. Mais ce n'est pas ce que dit le verset 13. Nous sommes à 100% dépendants à l'égard de Dieu pour qu'il œuvre en nous, pour que le vouloir et le pouvoir soient au rendez-vous dans notre vie. Voici comment l'exprime un auteur chrétien. L'une des vérités les plus fondamentales que nous apprenons en grandissant dans la vie chrétienne, c'est que nous sommes responsables et néanmoins dépendants. Cela signifie que notre responsabilité consiste à obéir aux commandements de Dieu. Si nous n'obéissons pas, c'est que nous avons choisi de désobéir. Mais c'est aussi un fait que nous n'avons pas en nous-mêmes les ressources qui permettraient d'obéir. Nous sommes totalement dépendants pour cela du Saint-Esprit. Et nous exprimons cette dépendance en nous appuyant constamment sur la parole de Dieu et en tournant constamment vers Dieu en prière. Mais ce n'est pas fini avec les privilèges, parce que lorsque nous le glorifions ainsi au sein de l'Église, nous remplissons notre rôle dans le monde. Je lirai à partir du verset 14. Faites tout sans murmure ni discussion pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche, au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Vous voyez le contraste entre le monde et l'Église. Le monde, corrompu, pervers, ténébreux. L'Église locale, sans plainte, sans dispute, irréprochable, pure, brillante comme des flambeaux. Le mot « irréprochable » est peut-être difficile à comprendre. Cela ne veut pas dire sans péché. Pensez à Daniel. Ce n'est pas que Daniel ait été sans péché. Mais ses ennemis ne pouvaient pas mettre le doigt sur une raison légitime d'accuser Daniel de quoi que ce soit. Plaise à Dieu qu'il en soit ainsi chez nous. Plaise à Dieu que le monde nous trouve sans plainte, sans dispute, brillant comme des flambeaux, parce que nous laissons de côté nos ambitions égoïstes qui sèment la discorde. Nous sacrifions nos préférences personnelles sur des questions mineures, parce que nous avons à cœur l'unité de la communauté. Nous passons les autres avant nous. Et c'est notre vocation en tant que peuple de Dieu. Vous pouvez le vérifier plus tard en étudiant le livre du Deutéronome 32 qui est repris ici. Les Israélites ont perdu leur droit à ce statut de peuple de Dieu du fait de leur désobéissance. En se livrant aux plaintes et aux disputes, les Israélites sont devenus corrompus et pervers, comme le monde, plus le peuple de Dieu. Si nous sommes tentés de calomnier un frère ou une sœur, si nous sommes tentés de critiquer tel responsable, si nous sommes tentés de vivre égoïstement pensant à cela, ce n'est pas compatible avec notre identité en tant que peuple de Dieu. C'est comme si on voulait vivre les ténèbres au lieu de briller comme des flambeaux. Le monde ne sait pas comment prendre position sur ce type de comportement auquel Philippiens nous exhorte ce matin. Il y a quelques mois, j'ai fait une recherche Google sur l'expression « faire passer les autres avant soi » et j'étais tout de suite face à un avertissement. Je cite « Quand vous faites passer les besoins des autres avant les vôtres, vous vous mettez en danger psychique. » D'un autre côté, le monde voudrait voir plus de personnes qui soient véritablement tournées vers les autres. Écoutez Dale Carnegie, auteur du best-seller « Comment se faire des amis et influencer les gens ». Le monde est rempli de gens qui tirent la couverture à eux-mêmes et qui cherchent leur propre intérêt. Le rare individu qui s'efforce de servir les autres de manière désintéressée bénéficie donc d'un énorme avantage. Il a peu de concurrence. Si la lecture de ce livre ne vous apporte qu'une seule chose, à savoir une tendance accrue à toujours penser en termes du point de vue des autres et à voir les choses sous leur angle, si vous obtenez cette seule chose de ce livre, elle peut facilement s'avérer être l'un des éléments clés de votre carrière. Fin de citation. Ce n'est pas un livre chrétien. Mais l'auteur cite quand même le propos de Jésus. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Idée clé de ce livre best-seller. 40 millions d'exemplaires vendus. Idée clé pour promouvoir ta carrière. Considérez les autres. Considérez les intérêts des autres. Tellement rare. Le monde a compris qu'il serait souhaitable de trouver des personnes qui agissent comme cela. Et puis tombe sur toute une église qui fonctionne comme ça, sans plainte, sans dispute. Et ils doivent se demander, mais où trouver la technique pour cela? La réalité, vous le savez bien, il n'y a pas de technique en tant que telle, mais il y a verset 16, la parole de vie. Si seulement ils pouvaient comprendre que c'est la parole de Dieu qui donne la vie, qui transforme, qu'on n'a rien si on n'a pas l'Évangile. Est-ce qu'on va pouvoir leur dire, il n'y a pas de technique, mais il y a la parole de vie. Une dernière motivation dans les versets qui restent, la joie des responsables et la joie des membres de l'Église. À partir du milieu du verset 16. Ce sera mon sujet de gloire au jour de Christ, de n'avoir pas couru ni peiné en vain. Mais même si je sers de libation, en plus du sacrifice et de l'offrande de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Les anciens d'une église locale en Belgique ne sont pas l'apôtre Paul. Ils ne sont pas en prison ni face à l'incertitude quant à pouvoir rester en vie à la suite d'un procès. Mais ils se sacrifient pour le troupeau. Ce sacrifice est en plus, lisons-nous, du sacrifice que chaque membre du troupeau consentit en vivant pour Dieu et non pour eux-mêmes. Pourtant, de tels sacrifices chez les anciens et chez le troupeau ne riment pas avec peine, mais avec joie. Joie pour les responsables, joie pour le troupeau, joie pour les responsables et le troupeau ensemble. Oh, il est difficile pour le monde de comprendre cela. Mais vivre de la façon prescrite par Dieu est un sujet de joie. J'ai cité tout à l'heure quelques phrases d'un livre. En l'occurrence, c'est le premier livre que mon épouse Myriam et moi, nous avons lu en parallèle pour en discuter ensemble. On se fréquentait à l'époque. Le titre du livre, bon, peut-être que vous n'allez pas pouvoir voir, mais c'est la joie de craindre Dieu. Et on pourrait croire que ça n'est pas trop possible. On doit choisir soit c'est la joie, soit on craint Dieu. Mais là, ça c'est une pensée qui vient de Satan. Écoutez le psaume 2, verset 11. Comment se lit psaume 2, 11 ? Servez l'Éternel avec crainte et tremblement ? Alors, si on disait ça, ce serait vrai. Mais ce n'est pas tout à fait ce que dit le psaume 2, verset 11. Je lis. Servez l'Éternel avec crainte. Soyez dans l'allégresse en tremblant. Les deux ensemble. Vous voyez que nous sommes boostés par toutes sortes de motivations. Nous avons la responsabilité de mettre notre salut en action. Nous avons la responsabilité de renoncer aux plaintes et aux disputes. Mais nous sommes poussés dans ce sens par le Père que nous craignons, par le Fils dans son exemple, par la Seigneurie du Fils, par le Saint-Esprit qui œuvre en nous, par le désir de briller comme des flambeaux dans ce monde, par le désir de réjouir nos responsables et le désir de vivre de façon réjouissante tout court. Et nous sommes dorénavant en mesure de revoir la conversation du départ. Frère, je pense que je devrais être franc avec toi. J'étais très déçu par toi durant la pandémie. Tu n'as pas été fidèle, tu n'as pas été sage, tu as juste cédé à tout ce que le gouvernement nous a dit. Pas possible de nous réunir en église, toi tu acceptes, malgré le fait qu'il y ait un commandement qui nécessite qu'on se réunisse en église. Et pour les vaccins, tu as avalé chaque mot de ce que les autorités nous ont dit, malgré le fait qu'il y avait des chercheurs indépendants qui nous avertissaient à l'époque quant au danger. Il faut être capable de discerner le temps, tu sais. Je comprends tes soucis, cher frère. Personnellement, je ne trouve pas ces questions faciles. Je ne prétends pas avoir eu raison sur toute la ligne. J'aurais souhaité participer à des rencontres d'église en présentiel durant le confinement. Et il est vrai que j'ignore beaucoup concernant les vaccins. Mais est-ce que nous pouvons reconnaître que ce sujet ne devrait pas créer des tensions entre nous? Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles des églises passent par des périodes de turbulence, subissent des schismes ou doivent carrément fermer. En rapport avec le schéma de ce message, j'ai pensé à plusieurs exemples récents d'églises dans plusieurs pays différents. j'ai choisi de ne parler que de deux églises en dehors de la Belgique. Elles ont toutes deux été fragilisées par des tensions qui auraient pu être évitées. Dans toutes les deux, le pasteur a parlé de la possibilité de jeter l'éponge. Dans les deux cas, une aide externe a été sollicitée. Dans l'un des cas, pas mal de personnes ont quitté l'Église, mais ce n'était pas nécessaire, bibliquement parlant. Dans l'un des cas, un frère qui avait tenu des propos déplacés s'est repenti et il y a eu une réconciliation glorieuse. Les problèmes sont essentiellement dans le passé. Dans l'autre cas, des difficultés restent. Dans les deux cas, ce qu'on aurait souhaité, c'est que les problèmes ne surgissent pas au départ. Et pour cela, on aurait souhaité que les assemblées entendent cet impératif venant de Dieu lui-même. Mettez votre salut en action en renonçant aux plaintes et aux disputes.